Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Pour faire le tour de la question avec ce premier sujet évoqué par Nico, sujet bouleversant, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est aujourd'hui une journée qui sensibilise particulièrement à une forme de harcèlement, mais elle est loin d'être la seule. On parle du cyberharcèlement qui prolonge en tout cas ces actes de maltraitance, agressifs, insidieux, en dehors des murs de l'école. Les élèves, les parents, les professionnels, nous sommes tous concernés. Jonathan Destin, qui a été harcelé pendant 6 ans, à l'école et qui a voulu en finir en se brûlant le corps, qui a survécu à cet acte terrible, est avec nous en studio ce matin avec son courage très fort pour témoigner. Lui qui aide aussi au quotidien tous ces jeunes harcelés aujourd'hui, il aurait aimé qu'on l'aide, j'imagine, dans son temps. Et puis à 10h, on va revivre ensemble l'épopée du sous-marin russe, le Kursk, dans lequel ont péri 123 soldats russes. C'est un film événement produit par Luc Besson qui est sorti hier au cinéma. On fait pour la circonstance le tour de la question sur les sous-marins dans le monde, en France évidemment. Quelles sont leurs compétences et leurs missions? C'est une plongée vraiment dans un monde mystérieux. Après le porte-avions Julie, voilà, on vous entraîne dans le milieu des sous-marins avec un amiral chevronné et avec Charles Villeneuve ce matin. Le standard est ouvert dès à présent, vos témoignages sont fondamentaux.
39, 21, 50 centimes la minute et vous avez le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités, Jonathan Destin. Donc bonjour Jonathan.
Bonjour.
Merci d'être venu de Lille spécialement pour témoigner une fois de plus après cette longue semaine, après cette diffusion lundi soir du téléfilm inspiré de votre histoire qui a recueilli l'attention de 6 millions de téléspectateurs, sujet très fort qui est donc entré dans toutes les familles une fois de plus. Emmanuelle Piquet est avec nous, psychopraticienne spécialisée dans le traitement du harcèlement scolaire. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet, comment se défendre du harcèlement notamment, bonjour madame. Et Justine Latlan nous a rejoint, directrice de l'association e-Enfance, une association de protection de l'enfance sur internet, spécialiste en l'occurrence du cyberharcèlement, avec un numéro vert pour le cyberharcèlement. Bonjour Justine. Alors vous êtes réunis avec nous jusqu'à 10h ce matin. J'engage vraiment tous les témoignages à nous arriver parce qu'ils vont nous aider aussi à progresser dans cette question, dans ce raisonnement. 700 000 élèves concernés par le harcèlement scolaire aujourd'hui, Jonathan, ça représente un élève sur 10, à peu près 6% des élèves. Alors évidemment, ce sont des chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des réalités comme la vôtre, bouleversantes. Moi, je n'ai pas vu le téléfilm, mais j'ai lu hier soir votre livre qui bouleverse tout simplement. Et 7 ans après le drame, vous vous investissez avec un dévouement incroyable. Vous aidez les jeunes harcelés, ou vous aidez en tout cas à repérer ces signes de harcèlement. Jonathan, expliquez-nous.
Oui.
Bonjour.
Bonjour. Donc j'ai été harcelé pendant 6 ans à l'école et j'ai subi aussi du racket.
À la sortie de l'école?
Oui, à la sortie de l'école.
Oui.
Et donc un jour j'ai tenté de m'immoler par le feu parce que j'en avais marre du harcèlement. Je subissais tellement de choses que c'était très dur.
Il faut dire que tout ça a duré très très longtemps, c'est pour ça que vous en arrivez à ces extrémités. 6 ans de harcèlement quasiment quotidien, Jonathan?
Oui, 6 ans tous les jours, pendant tous les jours, du CM2 de l'âge de mes 10 ans jusqu'à mes 16 ans.
Ça commence comment? Vous vous souvenez la première fois?
Ça a commencé vraiment par des petites choses en CM2, des petits gros mots.
Sur votre physique?
Voilà, sur mon physique, sur mon apparence.
Au début, vous ne faites pas trop attention?
Voilà, au début, je ne fais pas trop attention. Puis ensuite, quand je suis rentré en 6e au collège, là, c'était de plus en plus fort. C'était des gros mots sur mon nom de famille, sur ton destin d'être nul, d'être gros. Après c'était aussi des étapes, par exemple à chaque fois que je me rasais les cheveux, à chaque fois que je me coupais les cheveux, quoi faire, je me prenais une claque dans la tête.
Ouais.
Pour eux c'était une façon de dire je sais même pas exactement pourquoi.
Ouais. Vous sentez la bête noire à chaque fois. Il faut dire qu'en plus l'école c'est pas votre truc, c'est un peu compliqué pour vous, c'est un peu laborieux, vous mettez du temps à apprendre.
Oui, j'étais dyslexie et...
Ouais.
Et puis avec le harcèlement en plus, c'était vraiment pas évident d'apprendre les cours, tout ça, c'était...
C'est une double souffrance, c'est-à-dire que quand vous allez à l'école, il n'y a rien de bien pour vous.
Voilà, pour moi il n'y avait rien de bien, c'était... j'allais à l'école pour souffrir en gros.
6 ans de harcèlement, c'est considérable.
Ouais.
Vous n'en parlez pas ni à vos amis, ni à vos sœurs, ni à vos parents ?
J'en ai parlé une fois à une de mes sœurs, mais voilà, le lendemain, en fait, j'ai eu les représailles. Et ils m'ont tapé de plus en plus fort et du coup, à force, je n'osais plus parler à personne. À mes parents non plus, c'était très dur.
Quand vous dites « ils », qui sont vos harceleurs à ce moment-là, Jonathan ?
C'était l'harceleur, c'est au départ, c'était souvent une personne dans la classe, une ou deux personnes dans la classe. Puis ensuite, quand ils voyaient que ça marchait, quand ils voyaient que ça me faisait rien, on quand même traitait de tous les noms, tout ça. Ça pouvait être toute la classe entière, en fait.
Mais il n'y avait pas de témoins adultes dans cette école, des profs, des surveillants, le personnel d'entretien. Personne n'a été témoin de ça et agir.
Il y avait des professeurs, des surveillants, mais par exemple, même en cours de sport, voilà, il n'y a personne dans les vestiaires, on se retrouve seul face un peu à la classe. Et après, voilà, les professeurs n'ont pas réagi, c'était...
Ils ne voyaient pas l'ampleur.
Voilà, ils ne voyaient pas
l'ampleur du phénomène.
Et même quand je rencontre aujourd'hui encore des professeurs, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est le harcèlement.
D'ailleurs, l'établissement que vous avez quitté, le lycée en l'occurrence, considère qu'il n'y a jamais eu de harcèlement entre ces murs pour ce qui vous concerne.
Bah, ils n'ont jamais, voilà, pour moi, ils n'ont jamais.
Ils n'ont jamais reconnu ces faits.
Ils n'ont jamais reconnu ces faits, voilà.
Oui. Donc vous vous sentez dans un isolement absolument total.
Ouais.
Mais comment, quand on a 16 ans, quand on vit dans une famille qui vous aime, quand on est un beau jeune homme, qu'on a l'avenir devant soi, on peut en arriver à penser au suicide. Il y a des pages absolument terribles où vous dites que vous allez voir sur Internet pour trouver le moyen de se suicider. Ma vie était mauvaise, insupportable, et mourir était la solution pour arrêter. Me retrouver dans un autre monde, écrivez-vous, au calme, un monde que j'imaginais sans méchanceté, sans école. Je pensais tous les jours au suicide, le soir et la journée aussi, quand je me faisais embêter à l'école. Ça devient une obsession ?
Voilà, ça devient une obsession. Après, les harceleurs me traitaient de gros porc, voilà, ils me disaient « tu sers à rien, tu... » À force, en fait, j'y croyais.
Vous vous sentez inutile et pas
voilà,
simplement à leurs
voilà,
yeux.
Voilà, exactement. À force de l'entendre tous les jours sans cesse, j'y croyais et je pensais ce qu'ils disaient.
Et vous dites, à ce moment-là, il vaut mieux disparaître.
Et voilà, et après, moi, je me disais, la douleur que je vivais tous les jours à l'école ne pouvait pas être pire de la douleur de mourir, quoi.
C'est terrible, c'est-à-dire que vous comprenez aussi, j'imagine si bien ce petit garçon Charlie, il a 7 ans.
Ouais.
7 ans. Et il se fait battre, taper par un autre petit garçon, ouais. Nathan, et il veut rejoindre le bon Dieu. Comment aujourd'hui on peut imaginer de tels cas ? Mais vous le comprenez, le petit Charlie ?
Oui, mais c'est très dur à entendre. Je veux dire, c'est vraiment pas facile. Je le comprends.
Parce que c'est ce que vous aviez dans la tête.
Mais voilà ce que j'ai vécu, ce que j'avais dans la tête.
Mais vous l'aviez à 16 ans et pas à 7 ans.
Oui.
Mais ça peut exister pour vous aussi.
Mais oui, ça peut exister à tous les âges.
Et voilà pourquoi un jour de février 2011, vous décidez d'en finir, vous achetez un litre d'alcool à brûler, vous le repeindez sur vos vêtements, vous mettez le feu et vous êtes brûlé à 72%.
Ouais.
2 mois de coma, 20 opérations plus tard, vous avez aujourd'hui 23 ans, Jonathan est ravi de vous voir debout, fort aussi face à l'adversité. Et aujourd'hui, vous qui vous sentiez inutile, vous êtes plus qu'utile aux autres dans votre quotidien. Vous nous racontez tous les courriers que vous recevez aujourd'hui ?
Oui, j'en reçois énormément. Depuis la sortie du livre, depuis les hôpitaux, j'en recevais même à l'hôpital quand j'étais à Paris, je recevais des lettres, des cartes postales. À chaque anniversaire, je reçois des cartes postales. C'est vraiment quelque chose qui est un peu qui me fait beaucoup de bien.
Qui vous fait du bien, alors que 6 millions de Français ont suivi votre histoire sur TF1, adapté de votre récit, condamné à me tuer. et qu'aujourd'hui vous aidez avec votre association les jeunes harcelés. On va revenir justement sur le concret d'aujourd'hui et sur les drames liés au harcèlement et surtout les solutions pour les éviter, ces drames-là, parce que c'est inqualifiable, inacceptable et insupportable aujourd'hui. Jonathan Destin est avec nous. Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, va nous permettre de comprendre comment on peut se défendre du harcèlement, comment on peut aider ces enfants aujourd'hui victimes, ainsi que Justine Atlan. Merci pour votre témoignage, Jonathan. Vous restez avec nous, vous nous éclairez évidemment. Pierrette et Magali nous rejoignent et veulent témoigner à leur tour.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Un jeune sur 10 est harcelé à l'école. Pourquoi ne réussit-on pas à contrôler ces violences en milieu scolaire? Wendy Bouchard.
Avec Jonathan Destin qui témoigne, il a été harcelé pendant 10 ans. Il a tenté de mettre fin à ses jours. Il est aujourd'hui bien debout et il aide tous ces jeunes harcelés. C'est très fort de vous avoir avec nous, Jonathan Destin, pour nous aider à comprendre. Avec les femmes qui nous entourent, Emmanuelle Piquet, psychopraticienne spécialisée dans le traitement du harcèlement scolaire, et Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance. Mesdames, il y a une réalité complexe, il n'y a pas qu'une forme de harcèlement évidemment. Il faut dire que le gouvernement met l'accent sur le cyberharcèlement aujourd'hui, Justine Atlan, qui dépasse les simples murs de l'école. Il a vécu ça en partie, Jonathan Destin, pas sur Internet, mais le fait que ça dépasse avec le racket en dehors de l'école. Le cyberharcèlement, c'est encore plus vicieux, j'allais dire.
Oui, enfin bon, on va pas faire une échelle de traumatisme et de l'horreur, mais c'est vrai qu'effectivement ça rajoute une couche dans la mesure où ça vous poursuit en dehors de l'école, y compris à la maison, qui est l'endroit où on va se réfugier, essayer de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, de la sécurité affective éventuellement, et où là ça continue à vous polluer. Donc l'impression d'impasse dans laquelle on se trouve, on la ressent physiquement, y compris dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lieu finalement où on est protégé des agressions, de la violence.
Tous les réseaux sociaux, il y en a un en particulier?
Non, il n'y en a pas un en particulier, ouais. C'est pas propre à un en particulier. Et bien évidemment, on va dire que celui qui est le plus utilisé aujourd'hui par les jeunes est celui où ça se passe le plus, mais ça c'est mécanique. Mais il n'y en a pas un qui sollicite, favorise plus particulièrement. Il y a les textos aussi, les SMS, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Oui. On peut contourner un jeune qui va vouloir se protéger justement en n'allant pas trop sur les réseaux sociaux, il va quand même recevoir des messages sur ses SMS, sur des messageries. Il va y avoir des groupes qui vont être créés en son nom, contre lui. Donc même s'il n'est pas dedans, ça va exister. Il va le savoir, parce qu'on va s'arranger pour qu'il le sache. Oui. Donc il y a vraiment cette espèce d'oppression qui vient vous retrouver, avec une violence en plus qui est écrite. Donc c'est de l'oralité écrite, c'est-à-dire qu'il y a tout le déchaînement de la violence, des injures, mais qu'on peut malheureusement aller re-regarder, revoir. Donc, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi, mais c'est vrai que quand on est agressé comme ça, c'est difficile de dire couper, bloquer, arrêter de regarder. Non, on a une espèce de fascination à revoir, à regarder, est-ce que c'est bien vrai, est-ce qu'on m'écrit bien ces choses-là, mais qui est dedans et qui rajoute et qui aime et qui like. Donc on se fait du mal à soi-même, mais on n'y peut rien, et d'ailleurs c'est fait pour, c'est assez pervers comme fonctionnement, mais c'est efficace. Et donc voilà, donc c'est difficile de s'en sortir. Souvent effectivement on dit, vous parlez, il y a une maman qui dit il a été harcelé par son meilleur ami. Il y a aussi ça que les gens comprennent pas, ils ont l'impression que le harcèlement c'est forcément des gens extérieurs avec qui on n'est pas en lien. Bien au contraire, c'est souvent des gens avec qui on est en lien, des gens avec qui on aimerait bien être amis, avec qui parfois ils sont sympas. Un jour, ils vont être sympas, c'est pas non plus tout le temps horrible. Parfois, ils sont sympas. Puis demain, ils sont pas gentils. Mais voilà.
La description que vous faites, j'ai l'impression, c'est la proie. La meute, la traque, on est dans quelque chose de
absolument
bestial.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une nouvelle loi là sur les violences sexuelles qui effectivement a créé une nouvelle infraction de raid numérique, justement, de meute. C'est-à-dire, ça s'appelle le harcèlement en meute. C'est-à-dire que le fait qu'effectivement que tout le monde se regroupe pour une cible qui va avoir plein de harcèlement en ligne. Moi personnellement, je vais pas forcément avoir beaucoup d'actes de harcèlement, mais comme on va être 250 à avoir peut-être un seul acte, c'est comme un lynchage ou une lapidation. Je ne jette qu'une pierre, mais tout le monde en jette en même temps, donc la victime elle est harcelée.
Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants? Si vous aviez la réponse si simple, Emmanuelle Piquet n'en parlerait pas depuis des années, mais comment on en arrive à ce tel degré de méchanceté, d'horreur, de méchanceté gratuite?
En fait, je crois qu'il y a un point qui est extrêmement important, qui est celui de la popularité. Et si on ne prend pas ça en considération, on peut pas comprendre les faits de harcèlement. La popularité, c'est une espèce d'angoisse qui est assez moderne, c'est-à-dire que moi qui suis une vieille femme, je vivais pas ça exactement dans ces degrés-là, mais aujourd'hui les enfants d'une façon générale, les préados et les ados encore plus, sont absolument obsédés par une seule crainte, c'est celle de se retrouver tout seul sur un banc à faire semblant d'envoyer des SMS. Ouais. C'est une histoire de survie psychique. Et donc ils sont prêts à faire un certain nombre de choses pour que ça n'advienne pas. Le harcèlement est une solution, je mets tous les guillemets qui s'imposent évidemment, est une solution pour se retrouver au-dessus, pour faire tellement peur, parce que c'est une popularité assise sur la terreur en fait, mais c'est une popularité qui fait qu'à un moment donné, en effet, les témoins ne disent rien, les témoins se soumettent, les témoins suivent, parce que d'une certaine manière, ils ont trop peur d'être le prochain sur la liste. Et cette espèce de jouissance, de pouvoir absolu, qui, en effet, on le voit quand Charlie parle, hein, il y a au CP, par exemple, un jeu assez ancestral qui est très connu, hein, qui est que ce jeu de la contamination où un enfant, en fait, est pris comme victime, hein, donc de ce jeu-là. Et en fait, chaque fois qu'il arrive dans une pièce ou chaque fois qu'il arrive dans un endroit, tous les autres enfants s'écartent, hein, comme s'il était contagieux, comme s'il était, comme s'il contaminait, en fait. Le pestiféré, c'est une métaphore de sa non-popularité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on ne s'approche pas de quelqu'un qui n'est pas entouré, qui n'est pas socialement correct, en fait, parce que ça peut être contagieux. Donc, je crois vraiment qu'il y a deux choses. Il y a la popularité, cette espèce d'obsession absolue. Il faut aussi admettre que ce sont des enfants dont les parents regardent en permanence les likes qu'ils ont sous leur poste. Hein. Je veux dire, c'est pas par hasard aussi, hein, s'il y a une espèce de, d'inquiétude très forte comme ça des enfants, c'est que les parents eux-mêmes sont très inquiets. Encore une fois, moi, quand j'étais petite, quand je rentrais de l'école, ma mère me demandait pas si ça s'était bien passé avec mes copains. Hein. Ma mère me demandait combien j'avais eu en maths. Bon, bah, c'était assez peu brillant. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des mamans posent énormément cette question-là, beaucoup. Elles vont, par exemple, moi j'ai la chance de former des enseignants juste avant qu'ils prennent leur classe en autonomie, des professeurs des écoles. Ils disent que en moyenne section de maternelle, par exemple, vers le mois de décembre, les mamans arrivent et demandent à la maîtresse combien il y a eu d'anniversaires depuis le début de l'année. Ouais. Et quand la maîtresse dit, je sais pas, 10, les mamans disent, ah d'accord, 2 sur 10. Et elles mettent implicitement une note, en fait, sur les compétences relationnelles de leurs enfants. Donc, c'est des enfants qui sont très scrutés, vous voyez, sur leurs compétences relationnelles. Donc, ça les met dans des espèces de double contrainte où c'est extrêmement compliqué de se dire, il faut que je sois aimé, il faut que je sois cool, il faut que tout le monde soit copain avec moi, il faut que je sois dans la bonne bande. Et donc, ça crée, à mon avis, des vulnérabilités. Et c'est la deuxième chose dont on se sert, les harceleurs, c'est la vulnérabilité des enfants harcelés.
C'est incroyable ce que vous décrivez. Jonathan, je vous ferai réagir dans un instant parce que vous vous disiez, et vous le redites dans le livre, que vous ne vouliez de mal à personne. Vous étiez un garçon, et vous êtes un garçon pacifique, gentil, donc vous n'avez pas vu non plus peut-être ce danger arriver parce que vous ne pensiez jamais à mal, contrairement à certains. Je vais vous laisser en dire plus juste après la pause, avant de donner la parole à Magali et Laurence au 39-21, chère Julie.
La violence en milieu scolaire, on en parle avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 10h.
Avec la difficulté quand on est enfant harcelé de tenir face à l'adversité, d'aller à l'école qui ne devient plus un plaisir évidemment, qui est une souffrance, et c'était votre cas Jonathan Destin, qui après de longues années de harcèlement, 6 ans de harcèlement et de racket à l'école, a voulu mettre fin à ses jours en s'immolant, condamné à me tuer, c'est le titre de votre ouvrage. Aujourd'hui vous avez 23 ans, vous vous redressez et vous aidez ces jeunes harcelés. Jonathan, vous avez entendu Emmanuel Piquet parler de l'effet popularité. Voilà comment une meute se constitue. Ce qui choque Adeline, elle nous écrit de Paris, c'est l'effet de groupe qui est terrible lorsque toute une classe se ligue contre un seul enfant. Mais vous nous l'avez bien expliqué, l'une et l'autre. Est-ce que vous avez, vous, vécu ça aussi, Jonathan?
Oui, moi aussi, j'ai vécu ça.
Toute la classe?
Toute la classe, contre moi. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre et...
Et on sent pas les choses arriver, quoi. C'est progressif.
Oui. Oui, on sent pas les choses arriver. Au départ, quand il y avait une personne qui me harcelait, une personne qui se moquait de moi, je faisais tout pour pas être vu, pas être remarqué. Mm-hmm. Je me cachais toujours, même en récréation, je me cachais dans les cages d'escalier.
Vous n'étiez pas en récréation.
Non, la part du temps, j'essayais d'être près des professeurs, dans les cages d'escalier ou dans les toilettes où il n'y avait personne en fait.
C'est terrible.
Tellement que j'avais peur d'aller en récréation et soit de me faire traiter de tous les noms ou de me faire tabasser.
Et quand vous rentrez à la maison, vos parents vous posent des questions sur votre journée à l'école?
C'était plus sur les notes, sur ce qu'on avait fait en classe. Ce que j'avais fait en classe, ce que j'avais travaillé, les devoirs.
Voilà. Cela dit, ce sont les questions logiques qu'on se pose, notamment quand on est parent. Emmanuel Piquet, vous parliez tout à l'heure des anniversaires. Par exemple, l'effet popularité, lorsqu'un enfant est plus invité qu'un autre dans un anniversaire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que cette popularité de son enfant est quelque chose qui est devenu un sujet de préoccupation aussi des parents.
Bien sûr.
C'est pour ça que je dis que ça fait partie des ingrédients, en fait, finalement, du harcèlement.
Oui. La maman demande au professeur, il y a eu combien d'anniversaires cette année?
Oui.
On lui dit 10 et elle se rend compte que sa petite fille n'a été invitée qu'à 2.
Voilà,
pardon,
j'ai vraiment pas été claire. Hein.
C'est exactement ça. C'est bien parce que on doute justement de l'intégration de son propre enfant. Exact. Magali nous appelle de Lagny-sur-Marne. Bonjour madame.
Bonjour madame. Wendy Bouchard et bonjour à tous vos invités et un grand merci et continuez votre lutte, Jonathan.
Eh bien voilà, il est là, il vous écoute, vous pouvez converser avec lui, Magali. Merci. Il a beaucoup de courage, vous qui avez un fils quasiment du même âge. Hein. Il a quel âge, votre fils?
Oui, il a 21 ans, c'est-à-dire qu'il y a, en 2010, je voyais mon fils changer, maigrir. Tout le monde me disait, il a quelque chose, maigrir. Puis ça n'allait pas, il avait des tics, des tocs. Bon, c'est tout, je mettais ça sur le dos de l'école. Et en fait, il a été hospitalisé en pédopsychiatrie parce que ça n'allait pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était son meilleur ami qui l'embêtait.
Son meilleur ami, oui.
Oui, et puis on n'a jamais su ce qui s'est réellement passé. Alors quand je suis à l'école, allée à l'école en fin d'année scolaire, j'ai récupéré ses affaires.
Oui.
J'ai prévenu les enfants, j'ai dit faites attention, parlez. Alors les enfants parlent de tous les sujets actuellement, mais n'osent pas parler à leurs parents. C'est ça le gros souci.
Oui. Est-ce que vous savez pourquoi votre fils, dont vous êtes proche, n'a pas pu vous parler, Magali?
On ne sait pas. On ne saura jamais. Peut-être que dans 20 ans, je le saurai. Je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Mais j'avais cet enfant en face de moi. Et je vais vous être mal polie. J'aurais foncé dans le lard.
Oui.
Écoutez, je l'ai bien regardé fixement. Je lui ai dit, toi, je sais que tu as fait du mal à mon fils. Mais je vous jure que si j'avais pu lui dire en face, je me suis retenue, hein. Mais vraiment, si j'avais pu, je l'aurais fait.
Oui, il y a ce côté
des alerter les autres enfants surtout.
Oui, alors ça c'est très important. On va parler de voilà comment on forme les autres enfants. Pierrette va témoigner sur la formation aussi des professeurs. Mais comment on explique Emmanuel Piquet le fait qu'il soit si difficile pour un enfant harcelé de parler de cela à ses parents? Ça tient de la honte parfois, le harcèlement?
Alors,
de la gêne?
Je suis pas sûre que ce soit le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est d'abord cette peur de faire de la peine à la personne qui nous est le plus chère. Parce que, sincèrement, la douleur parentale associée au fait d'avoir un enfant harcelé, malmené, brutalisé, ostracisé, etc., c'est quelque chose d'animal, là, pour le coup, aussi, comme douleur. On a, comme dit cette maman, on a juste envie de foncer dans le lard tout le monde, en fait, hein, très clairement, parce que c'est juste horrible. Et ça, les enfants harcelés, qui souvent sont très sensibles, le savent. Donc, premièrement, ils veulent protéger leurs parents. La deuxième chose qui est très importante à bien comprendre, et c'est compliqué à comprendre, c'est que souvent aussi, ils se disent, si je le dis, les parents vont faire des choses qui risquent de se retourner contre moi.
Oui.
Pas de avec tout leur amour, toute leur bienveillance, toute leur intelligence d'une certaine manière, tout leur bon sens.
Ça risque d'être pire que mieux.
Ça risque d'être pire que mieux, ils le sentent, confusément, même s'ils ne savent pas exactement le verbaliser, et donc ils préfèrent ne pas parler en se disant c'est horrible mais ça restera comme ça, ça va pas.
Ça a été pire dans votre cas, Jonathan, c'est que les racketteurs vous ont dit si tu parles, si tu ne donnes pas le fric, on va tuer ta famille.
On entrera du mal, on tire des parents et on menace de mort. Et...
Oui. Et donc là, évidemment, c'est un cercle fermé de vices et d'horreurs, Justine Atlan.
Oui, enfin, alors, moi je trouve ça très important que les parents, effectivement, soient présents dans cette boucle parce que c'est à eux d'identifier un mal-être puisqu'ils se voient malgré tout leur enfant en tête à tête, ils sont plus capables de le connaître et de repérer des changements de comportement. Néanmoins, l'enfant, il est harcelé à l'école, dans un environnement où les parents sont totalement absents. Donc c'est très compliqué d'aller porter cette culpabilité, ce poids du repérage, de l'identification et de trouver la solution aux parents. Les parents, quelque part, sont les plus mal placés pour aller régler ce problème de harcèlement qui se passe entre camarades de l'école. Oui. Excusez-moi, mais ce sont les autres adultes à qui les parents confient leur enfant 8 heures par jour qui ont cette responsabilité-là. C'est eux qui sont présents et c'est, alors pas forcément aux profs, mais à ces types d'adultes-là que les enfants doivent pouvoir s'adresser. C'est eux qui doivent les protéger et les aider. C'est pas les parents.
Et la médiation par les pères, on va en parler.
Voilà, il y a plein de choses, mais ce ne sont pas les parents.
Juste après la pause, Julie, et j'accueillerai Lucas dans cette réflexion. Il a 21 ans, il nous appelle d'Angers. Lucas, merci de votre courage, vous qui avez été victime de harcèlement de 11 ans à 15 ans et qui souhaitez aussi témoigner dans cette émission. À tout de suite sur Europe 1.
Avec Wendy Bouchard. L'éducation nationale est-elle responsable du harcèlement scolaire? C'était la question Facebook qu'on a posée.
Alors?
Oui, à 65%.
Oui.
C'est pas beaucoup en fait.
Non, c'est pas beaucoup, mais les parents sont peut-être un peu déchirés sur cette question-là. Mmh. Hein.
Oui, il y a eu 5900 votes, 65% pensent que l'éducation est responsable. L'éducation nationale est responsable.
Et voilà, comment l'éducation peut lutter contre ces cas de harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 harcelé au cours de sa scolarité avec des dérives morbides, des suicides, des tentatives de suicide, des dépressions, des décrochages, des transformations physiques. Magali nous parlait de son fils a maigri. Vous aviez aussi beaucoup maigri, Jonathan,
oui,
en destin.
J'ai perdu une dizaine de kilos en un mois et demi.
Et parce que rongé de l'intérieur.
Oui, voilà, c'est très dur.
Ouais.
Je maigrissais, je mangeais plus. Je mangeais plus le soir en arrivant. Dès que j'arrivais à la maison, j'allais dans ma chambre et je pleurais.
Ah oui, donc c'est une dépression, ce que décrit Jonathan, voilà. Emmanuel Piquet.
Oui, tout à fait. Clairement. Donc il y a vraiment des signes physiologiques, il y a des signes, psychiques. Il y a ce que disait Jonathan très justement, c'est-à-dire cette espèce d'effondrement intérieur où on a l'impression qu'en effet, on est même plus valable pour vivre, quoi. Je veux dire. Donc
on évite de.
Ouais. Donc ça crée de la dépression, c'est clair.
Lucas est avec nous. Vous nous appelez d'Angers. Bonjour, Lucas.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Merci Lucas de venir témoigner comme Jonathan le fait ce matin. Vous avez été victime de harcèlement de 11 ans à 15 ans. Racontez-nous comment ça se concrétisait et comment vous vous en êtes sorti, Lucas.
Alors c'est 4 très longues années. Petit aparté déjà, je voudrais m'adresser à Jonathan pour lui dire merci. Déjà son livre a aussi éveillé un peu ma conscience et m'a aussi permis de m'impliquer dans le combat déjà.
Car vous faites aussi des interventions de prévention aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges ?
Absolument, maintenant je fais des interventions de prévention. Alors j'ai mis du temps déjà à mettre des mots sur ce que j'avais vécu.
Oui.
J'ai mis du temps à pouvoir en parler, j'ai mis du temps à pouvoir verbaliser. Il y a encore quelques temps, je pense que j'aurais été incapable de parler de ça. Maintenant, effectivement, j'interviens dans les établissements scolaires pour essayer de prévenir au plus le phénomène parce que on ne peut pas se permettre de briser aussi jeune le destin d'un gamin, d'un ado. Et du coup, j'essaye de prévenir le mieux possible avec ma petite expérience et d'apporter mon témoignage.
Laurence nous écrit, Lucas de Nancy, elle dit qu'une de ses filles a été harcelée pendant 2 ans au collège et qu'elle reste toujours très fragilisée par cette expérience. Elle a 20 ans, mais elle n'est pas encore reconstruite. Vous la comprenez, cette jeune femme, on reste marquée, j'espère pas à vie, mais en tout cas durablement par ces épisodes de harcèlement.
Ah, c'est parfaitement normal et encore aujourd'hui, même si maintenant j'arrive à exorciser un peu en communiquant, en faisant justement des interventions, moi aussi j'ai 21 ans et je demeure très marqué par ça. Il y a des stigmates, il y a des choses qui restent dans la vie d'adulte, bien sûr. Je comprends qu'effectivement ça puisse mettre un certain temps. À partir du moment où on commence déjà à le verbaliser, à pouvoir mettre des mots, à pouvoir en parler un peu plus librement, déjà ça va mieux,
déjà,
on libère d'un poids,
oui.
Mais ça reste très longtemps, bien sûr.
C'est une étape déjà. Lucas, je vous demande d'accueillir Michael qui nous appelle du Rhône au 39-21. Bonjour Michael.
Oui, bonjour.
Alors vous avez un peu plus de d'âge, je vais dire quoi, une quarantaine d'années.
Ouais, on peut dire 42. Hein,
42, bah voilà, très bien. Voilà. Et vous avez été vous-même harcelé, ça a commencé à quelle période pour vous, Michael ?
J'étais en quatrième.
Oui.
Au collège. Ça a duré quatrième, troisième.
Oui.
Et c'était tous les jours, et c'était toute la classe. Des railleries, de moi j'étais contupu, on me tapait, les filles se moquaient de moi, elles parlaient de sexualité pour me mettre mal à l'aise, c'était filles, garçons, et c'était très très difficile. Et la difficulté en fait qu'on a, c'est que ça ne prend pas sens du tout. C'est que quand il nous arrive quelque chose, on essaie de comprendre. Et là, il n'y a pas de sens. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse au pourquoi.
Oui.
Et c'est ça la difficulté, ça nous met dans une situation où parler de quoi finalement ? De quoi on va parler ? Parce qu'il n'y a pas de sens, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et c'est la vraie difficulté. Et donc d'en parler aux parents ou même aux adultes à l'école, c'est très compliqué, très très compliqué.
C'est ce qui s'est produit pour vous ? Vous n'avez pas réussi à trouver d'aide, de témoins de cela, de votre souffrance, Michael ?
Alors, des témoins, si. Mais personne ne prenait la mesure de ce que pouvait être un harcèlement. Le harcèlement, moi à mon époque, personne n'en parlait.
Oui,
enfin,
bien sûr.
Je veux dire,
oui, ça fait 30 ans. Heureusement, c'est devenu moins tabou et on essaie de lever le voile sur une zone interdite terrible. Comment vous en êtes-vous sorti, Michael ? Parce que ça a été très durable et très lourd au quotidien, on l'entend.
Oui. Alors, deux choses. Il y a, moi, à côté, je faisais une activité sportive, de la musique. Mmh. Heureusement, ma mère, s'il y a un mot pour la décrire, c'est amour. Vous voyez, j'avais un papa très solide et ça me donnait un exemple. Mais moi, dans le sport, j'étais devenu moi-même violent. Je tapais mes camarades.
Ah oui, une sorte de vous exorcisiez d'une certaine manière. Hein,
c'est ça.
Cette, ouais.
C'était un exutoire, finalement.
Ouais.
Et plus tard, j'ai compris que je me suis intéressé aux harcelés, mais aussi aux harceleurs. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, moi, souffrant, je tape. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas eux-mêmes une souffrance pour devenir, pour faire ça ? Parce que
il me fallait un sens. J'ai donné peut-être ce sens-là.
Eh ben, quel sens de l'ouverture, voilà. En tout cas, d'esprit pour vous, Michael, d'être allé voir, essayer de comprendre ce qui se passait du côté du cerveau du harceleur. Si vous voulez bien, c'est ce dont on va parler dans un instant. C'est très intéressant de voir à la fois comment on constate qui est harcelé et ce qui se passe justement chez le harceleur avec vos témoignages, Michael, Lucas, très fort, avec Pierrette qui veut également, comme maman, s'exprimer. Et nos invités, Emmanuel Piquet, Justine Atlan, Jonathan Destin, on fait le tour de la question, une question sensible, très sensible et très lourde ce matin, jusqu'à 10h, Julie.
39-21 pour vos témoignages.
Il est 9h39 sur...
Oui, 9h39, on va enchaîner alors. Hein. Le tour de la question sur le harcèlement scolaire. C'est aujourd'hui que se tient la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école.
Le harcèlement scolaire, après les témoignages que vous avez entendus, celui de Michael du Rhône, celui de Lucas d'Angers, celui de Jonathan Destin qui est venu de Lille spécialement pour témoigner sur son long combat contre le harcèlement lorsqu'il était au collège et aujourd'hui pour aider ses enfants harcelés. Ils sont 6%, 700 000 élèves en France confrontés au harcèlement scolaire avec des dérives parfois inacceptable et d'une dureté folle, vraiment folle. Emmanuel Piquet publie Le harcèlement scolaire aux éditions Pocket, primaire, collège, lycée, les solutions qui marchent. Car oui, Justine Atlan, vous qui dirigez l'association e-enfance, qui protège aussi l'enfance sur Internet et qui lutte contre le cyberharcèlement, ça peut commencer très très tôt, le harcèlement. On entendait le petit Charlie, 7 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'inquiéter aujourd'hui quand on est parent dès la maternelle?
Et il faut s'inquiéter dès la maternelle, dès que son enfant est socialisé en réalité.
Mais vous voulez dire même à la crèche?
Mais oui, dès que l'enfant est socialisé, dès que l'enfant sort de la maison, oui. Est avec d'autres.
Il est exposé?
Bah, il est dans une collectivité qui n'est plus celle de la famille des parents, qui, quand il fonctionne correctement, est dans effectivement la bienveillance et la sécurité. Et donc là, il s'expose à du lien, il devient un être social, donc qui est en lien avec d'autres. Et là, effectivement, il va y avoir des paramètres qui vont tout de suite se mettre en place par rapport à d'autres qui ont d'autres compétences sociales. Un enfant tout petit, déjà, il est habité par ses compétences sociales qu'il a plus ou moins, son estime de lui, qui est déjà construite. Oui. Donc il a plus ou moins, qui vont créer des vulnérabilités dont parlait effectivement Emmanuel, et l'estime de soi en est une forte vulnérabilité qu'on a plus ou moins, et où effectivement le regard de l'autre va avoir plus ou moins d'impact et de résonance en vous. Soit vous avez une estime de vous suffisamment forte et le regard de l'autre voilà, vous atteint plus ou moins, soit vous avez une estime de vous assez faible, et là le regard de l'autre va prendre toute la place. Donc ce que pense l'autre de vous, c'est ça qui est important et qui est vrai, plus que ce que vous pouvez ressentir. Et donc ça vient de plus en plus fort et ça vous écrase intérieurement, et donc ce que vous pensez, ce que vous êtes n'existe pas, et c'est la parole de l'autre qui est vérité.
Eh oui, et c'est ce qui s'est passé avec vous, Jonathan, c'est que vous n'aviez pas une grande estime de vous. Vous étiez plutôt un garçon timide, réservé, qui ne voulait de mal à personne, mais qui ne s'aimait peut-être pas beaucoup, qui ne savait pas se défendre, qui ne voulait pas se défendre.
Oui, voilà, j'aimais pas mon corps en fait. Hein.
Ah oui.
J'avais du mal à accepter mon corps parce que j'étais assez enrobé.
D'accord.
Et voilà, c'est.
Déjà vous-même, vous vous disqualifiez.
Voilà, oui. Ouais. J'avais pas confiance en moi. Je me disais toujours t'es nul. Ouais. J'écoutais vraiment le harceleur et je me le disais aussi
c'est
à moi-même.
Ça. Et c'est ça qui est terrible chez le harceleur, c'est qu'il sent. La proie, pour revenir à cette métaphore terrible de chasse, quoi. Absolument. Il sent celui qui peut être harcelé.
Il sent la vulnérabilité. Mmh. Et n'importe quel enfant peut être vulnérable, hein, c'est très important. C'est-à-dire que.
À différents moments de sa vie.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant spécialement différent qui serait plus harcelé que les autres. Hein. Ouais. N'importe qui, ici, sur ce plateau, peut être vulnérable à un moment donné. Et ça, ils le sentent. Mmh. Les ados et les pré-ados ont un radar extrêmement précis pour sentir ça. Et donc, ils y vont. Et si, en effet, il n'y a pas de riposte, il n'y a pas de conséquences négatives pour eux, hein, ouais. En termes d'inconfort, ils continuent. Et donc, il n'y a toujours pas de riposte. Et donc, il continue.
Il y a cet effet normalement.
Et c'est ça, en fait, le cercle vicieux du harcèlement.
Pierrette est avec nous au 39-21. Bonjour, Pierrette.
Bonjour, vous m'entendez?
Je vous entends très bien, Pierrette. Oui. Quel âge avez-vous?
J'ai 30 ans.
Et vous avez un fils de quel âge?
Il a 10 ans.
Et il a été victime de ces faits de harcèlement?
Oui, ça s'étend maintenant sur 2 ans.
Ça donc, continue?
Depuis l'année dernière, oui, ça continue. Nous, on a ressenti le changement d'attitude d'Ethan, où il ne voulait pas aller à l'école. Pourtant, c'est un enfant qui aime l'école, qui aime être avec les autres, et, parce qu'il est fils unique à la maison, donc il aime être avec les autres. Et on a vu un changement assez radical de son attitude. Mmh. Donc, dans un premier temps, on ne comprenait pas, suite à un déménagement, on s'est dit peut-être le temps d'adaptation, mais avec le temps, de plus en plus introverti, Et pendant un dîner où on discutait avec son papa, on a forcé un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, ils font en larmes pour nous dire que voilà, il était frappé. Il y avait des enfants qui lui couraient après dans la cour de récréation, qui le frappaient, qui lui disaient des choses blessantes, qui n'osaient pas. Il me dit « Maman, je veux même pas le dire ». Parce que voilà, j'ai pas envie de dire ce qu'il me dit. Donc tout de suite, j'ai été voir la directrice complètement paniquée en disant mais enfin c'est quand même grave. Est-ce qu'ils sont au courant? Visiblement non. Ça a pris un degré au-dessus parce que il rentre seul le mercredi. Il a été happé à l'extérieur de l'école.
Oui.
Par trois enfants qui l'ont mis à terre. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est qu'il y avait des parents d'élèves qui passaient devant, qui voyaient la scène et qui n'ont rien fait. Donc il a été mis à terre, il est arrivé à la maison, il m'a appelé tout de suite en larmes en me disant qu'on l'avait frappé, qu'il avait été mis à terre. Donc le lendemain, pareil, je sais que j'ai été voir la directrice, pour le coup qui était vraiment très réactive, hein, là-dessus je tiens à le préciser,
oui.
Elle a eu une bonne réaction, elle a eu Ethan, mon fils, elle l'a emmené dans la cour de récréation pour lui demander quel enfant avait agi de la sorte. Donc les enfants concernés ont été approchés, les parents ont été mis dans la boucle. Moi, mon idée vraiment dans la révolte en me disant « ce n'est pas possible », c'était d'aller porter plainte. Mon mari m'a dit « ça va pas résoudre le problème, il faut qu'on essaie de comprendre ». Donc les parents de ces enfants-là nous ont fait un mot d'excuse. Et derrière, moi j'apprends que Ethan, quand il a été subi des violences, dans un premier temps, il a été voir sa maîtresse, ça c'est vraiment plus glaçant, qui lui a dit « écoute, moi ça ne me regarde pas, ce qui se passe à l'extérieur, ce sont tes parents qui s'en occupent ». Je me dis « mais les enseignants, c'est un peu les confidents, il était se confier et on l'a envoyé bouler comme ça,
ouais, sans
essayer de comprendre ce qui s'est passé et nous alerter, non ». Moi, je n'ai pas du tout été alertée par son encadrement de l'année dernière. Donc, il est rentré dans un climat où il a peur de violence. Il se dit non, voilà, il va me frapper. Tel dit ça à l'école. On dirait qu'il y a des espèces de caïds un peu dans les cours de récréation qui font leur loi. Et les enfants sont en panique. Et ça, derrière, personne ne fait rien.
Alors, Pierrette, votre témoignage est très fort. Si vous voulez bien, juste après la pause, on va revenir sur ce que vous venez de dire pour essayer de voir quelles sont les solutions dans les écoles aujourd'hui, dans les actions de sensibilisation pour mieux former les professeurs. C'est pas normal qu'un professeur aujourd'hui vous dise c'est aux parents de s'en charger parce que ça se passe en dehors des murs de l'école. Ça, et on comprend votre souffrance sur le sujet. Pierrette, on vous retrouve dans un instant avec nos invités. Encore quelques secondes pour faire le tour de la question sur un sujet si fondamental. A tout de suite avec Julie.
Le harcèlement scolaire et sa violence, on en parle avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 10h.
Et s'il vous plaît, répondez à Pierrette qui nous appelait des Yvelines. Elle est avec nous, elle a 30 ans, son fils a 10 ans, victime de harcèlement. Elle a l'association que les professeurs ne sont pas formés pour défendre son fils. Emmanuel Piquet, vous êtes psychopraticienne, vous écrivez notamment « Je me défends du harcèlement » chez Albin Michel et le harcèlement scolaire en question chez Talendier. Que peut faire Pierrette aujourd'hui face à cette situation difficile.
Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, hein, c'est un problème que les adultes doivent prendre vraiment à bras-le-corps, que ce soit à la maison, mais surtout, comme disait Justine, à l'école. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on forme justement des professionnels, des CPE, des instits, des directeurs d'école,
oui,
pour qu'ils soient capables d'outiller les enfants harcelés. Les outiller de façon verbale, de façon comportementale, pour que, en plus de l'empathie, hein, parce qu'évidemment, en plus là, il manquait l'empathie, hein, il manquait l'accueil, évidemment, de l'émotion,
oui,
mais ça, c'est quand même la base, et ça, tout le monde le fait aujourd'hui,
oui,
au sein de l'éducation nationale.
Oui.
Mais nous, en plus, et on est les seuls, en Europe à faire ça, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut aider cet enfant, en comprenant exactement ce qui lui arrive, à riposter de façon telle que le harceleur, tout à coup, tombe de son piédestal. Puisque, pardonnez-moi, je reparle de popularité, c'est son talon d'Achille. Il le fait toujours en bande, il le fait toujours devant ses courtisans. Donc comment est-ce qu'on va aider le petit Charlie, comment est-ce qu'on va aider le petit garçon de
oui,
Ethan, à riposter d'une façon telle que le harceleur se dise, il y a un risque à continuer.
Alors il y a un problème, c'est qu'Agnès Menu sur Twitter nous écrit « Je suis un stit, les parents des enfants harceleurs soutiennent leurs enfants. » C'est là, je crois, la plus grande difficulté, Justine Atlan.
C'est
oui,
vrai,
ben, ça aussi.
C'est toujours un peu compliqué de dire ça, parce que effectivement, de même qu'on ne va pas dire qu'il y a un profil type du harcelé, on ne va pas non plus dire qu'il y a un profil type du harceleur. Hein, donc voilà, on va aller dans la nuance. Mais néanmoins, c'est vrai que très souvent, les équipes éducatives se plaignent de l'accueil et du non-accueil des parents de harceleurs, qui pour certains profils de harceleurs sont des enfants récidivistes. persistent hein, dans le harceleur, c'est-à-dire qu'on les voit qui sont toujours dans cet état-là, et on se rend souvent compte que ce sont des enfants extrêmement soutenus par leurs parents, qui sont quand même dans une espèce de toute-puissance, hein, qui ont été élevés dans la toute-puissance, qui sont dans la toute-puissance et dans une notion de droit absolu, de tout faire, et qui savent parfaitement qu'ils ne seront jamais sanctionnés, en tout cas à la maison, ça c'est sûr, et que donc quoi qu'il arrive, c'est l'école qui va être responsable, c'est les autres qui vont être responsables, mais nous les parents, voilà. Et donc ça c'est vrai que c'est très compliqué quand vous n'avez pas le soutien
de ces enfants-là.
Et ben c'est vrai que ces enfants-là, si l'école n'est pas capable, puisque à l'école on se socialise, on apprend la loi, la règle, autre que celle de la famille justement, celle de la société, du rapport aux autres, c'est l'école qui doit incarner ça, les principes de la République comme dit le ministre, mais effectivement les lois qui nous régissent dans la société, dans nos relations tous ensemble, si l'école n'est pas capable lui de dire bah l'école, voilà, nous on respecte la loi et c'est interdit d'aller faire du mal à quelqu'un, de l'injurier, de l'inciter au suicide, hein, tout ça c'est illégal et donc on sanctionne. Il y a des sanctions à l'école qui sont pas répressives, qui sont éducatives, qui sont faites pour ça et ça c'est à l'école de mettre en place et que le parent doit s'y soumettre.
Notamment mise en place depuis 2 ans d'un dispositif que le ministre de l'Éducation nationale veut généraliser aujourd'hui, celui des élèves ambassadeurs qui font le guet pour éviter que d'autres subissent le même harcèlement, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment là vous seriez aidé par vos pairs. Est-ce que cela vous aurait aidé, Jonathan Destin, d'avoir des référents de votre âge quasiment dans votre établissement et pas des adultes auxquels il est plus difficile de se confier?
Oui, je pense que oui, ça aurait pu m'aider de voir quelqu'un qui sensibilise les personnes face au harcèlement.
Oui, et en l'occurrence des personnes qui eux aussi ont vécu ce cercle vicieux, c'est ce que vous faites aujourd'hui et, oui, et voilà, je crois que votre utilité est énorme.
Oui, je pense que ça aurait pu m'aider.
Oui, et vous le faites pour cela aussi, oui, Jonathan. Je rappelle votre association, elle est très importante, www.jonathandestin.com, avec toutes vos actions de sensibilisation. Un numéro à rappeler également, Julie, fondamental. Sur le harcèlement, c'est le 0800 200 200 00. Et non au harcèlement, le 30 20. Brigitte Macron, très sensibilisée au sujet, veut aussi qu'à l'école il y ait un apprentissage de la bienveillance et chez tous les tout petits. Ce n'est pas seulement sur internet que ça se passe, Julie.
Et puis ce message de Chris qui peut être une conclusion: les harceleurs ne sont jamais radiés de l'école, ce sont les victimes qui sont obligées de fuir ou de déménager.
Et ça, on dit non, on dit stop au harcèlement scolaire en cette journée de sensibilisation. Merci infiniment. Le harcèlement scolaire chez Pocket, c'est le livre d'Emmanuel Piquet avec vos centres de thérapie chagrin scolaire. Justine Atlan, votre association e-enfance qui protège l'enfance sur internet, et Jonathan Destin, merci pour ce que vous faites aujourd'hui. Continuez et on vous recevra pour voir aussi l'évolution des choses. Merci. Merci beaucoup, Jonathan.